Bonsoir, c'est Mai sur le podcast des Habits Noirs. Et aujourd'hui, c'est un podcast un petit peu spécial puisque nous allons faire une interview de Jean-Christophe Chosy. Salut Jean-Christophe.
Salut Marc.
Et cette interview, eh bien, elle marque le signe d'un spécial BD et qui aura peut-être d'ailleurs des prolongements dans des podcasts futurs avec des critiques de livres. En tout cas, là, nous sommes aujourd'hui avec Jean-Christophe Chosy, qui est un dessinateur de bande dessinée, mais pas que ça, bien sûr. Alors, je vous le situe en quelques mots, quand même. Il a commencé dans le genre qui nous occupe, c'est-à-dire la BD noire, avec plusieurs collaborations avec notre ami Thierry Jonquet, La Vigie, qui est un livre qui avait été publié à La Talente, si vous vous en souvenez, La vie de ma mère, le numéro 1, le numéro 2, et ensuite DRH, qui a donné lieu ensuite à une édition en folio, une édition sous sa forme littéraire. Bon, ensuite, on a travaillé, lui et moi, sur des adaptations de mes propres livres. Et en tant que dessinateur dans un genre, alors là, plus personnel et humoristique, plus autobiographique même, on dira, il a publié un premier livre intitulé Petite Nature, un second Petite Nature toujours, et il s'apprête à publier un troisième livre. Tout ça est édité chez Fluide Glacial, contrairement au premier qui est édité chez Casterman. Donc ce troisième Fluide Glacial s'intitule Prêt à tout. Alors Jean-Christophe, bon, ce qui nous intéresse en fait aujourd'hui, c'est pas ta vie, ton œuvre en général, mais plutôt ton rapport au polar, au noir. Comment t'as commencé toi à t'intéresser à ce genre-là?
Moi, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça assez tardivement, finalement. Quand j'étais ado, 17-18 ans, ce que j'ai beaucoup lu, moi, c'est du fantastique. Donc, ça peut paraître un peu curieux. Moi, j'ai plutôt commencé avec Lovecraft, Edgar Poe et toute cette mouvance-là, qui a pas mal nourri les BD d'ado que je faisais à cette époque-là, où mes fascinations allaient plutôt vers les grands noms de l'époque, comme Giraud, Moebius, Bilal, ces gens-là, enfin, qui étaient des sources rayonnantes à cette époque-là. Et je suis rentré, moi, dans une fascination pour le noir un petit peu plus tard, dans le cadre de mes premiers bouquins pour Futuropolis, avec une collaboration avec un type qui s'appelle Mats, qui continue à bosser pour Casterman dans le cadre de plusieurs collaborations et qui s'occupe un petit peu de la collection Rivage Casterman.
Oui, j'entends bien, mais là, en fait, j'ai mal posé ma question. Je voulais dire, tu es rentré en connivence avec le genre polar noir, mais je pensais plutôt à des livres de forme littéraire, hein, sans images.
Mais c'est à ce moment-là que c'est arrivé.
Oui, as-tu allé le dire? Bon, d'accord.
C'est-à-dire que moi, j'en avais très peu lu, en fait. Mais par ailleurs, c'était quand même déjà dans mon imaginaire, puisque j'ai quand même bouffé pas mal de cinéma. Intuitivement, j'étais vraiment porté vers le ciné noir des années 30 aux années 50. J'ai bouffé pas mal de ciné-club. Mais c'est vrai qu'au début, il n'y avait pas de répercussion entre cette fascination pour le ciné et puis mon travail en bande dessinée. Et c'est vrai que ça s'est goupillé à partir du moment où j'ai commencé à en lire sur des conseils avisés qui m'ont d'abord porté vers le noir américain, avec des gens comme Thompson, McCain, McBain, Elroy, enfin bon, c'est toute cette génération plus récente, puis dans la foulée vers les Français.
D'accord. Oui, t'as commencé à lire du noir, en fait. C'était en fait les auteurs des années 50, quoi. T'as pas repris, ouais, ça au tout début, comme j'y pense, parce que là on est en train de rééditer La Moisson Rouge d'Amet avec une nouvelle traduction. Je pensais à toute l'équipe des débuts du roman noir américain. Bon, Amet, Chandler,
Amet après,
McCoy.
Après, Chandler, oui.
Mais t'es venu en fait par des gens plus proches de nous, comme McBain, voire même Elroy qui est très près, lui, ou Thompson, quoi.
Oui. Ce qui m'a séduit, c'est peut-être là le lien avec le fantastique, c'est que chez des gens comme Thompson ou Elroy, il y a quand même une... Bon, c'est presque une espèce de... Comment dire, de lieu commun que j'ai dit, mais une noirceur, enfin une violence absolument radicale, enfin qui moi m'a vraiment frappé, quoi, qui n'est pas présente dans tout le roman noir tout de même.
Et c'est ça qui te plaît, pardon.
C'est-à-dire qu'elle est très... Elle est très visuelle, et le rapport qu'on peut établir directement avec l'image, et notamment moi, qui est plutôt un dessin qui me porte à à l'expression de scène et de mouvement dynamique. Cette violence-là, cette dureté-là, elle est quand même assez fascinante. Et puis, elle débouche tout de suite sur des envies, justement, de mise en scène, de composition de cases, et puis d'ambiance aussi, puisque c'est quand même une des caractéristiques du roman noir que de proposer des ambiances qui sont à la fois très réalistes et à la fois très poétiques, je trouve.
Oui, ce qui te plaît, en fait, c'est le rapport à l'image que tout de suite tu peux avoir quand tu lis un roman noir, quoi.
Tout à fait.
Tu as des images qui interviennent, quoi.
J'ai des images qui me viennent, et qui me viennent d'autant mieux avec des sources du polar récent que... autant moi je peux apprécier le ciné ou la littérature historique, autant en tant qu'auteur de bande dessinée, dessiner des histoires en costume, ça ne m'intéresse pas du tout.
C'est contemporain, quoi.
Oui, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'entoure, hein, donc ce qui se passe en bas de chez moi, ce qui se passe autour de moi à l'époque à laquelle je vis. Et c'est d'où la résonance avec des auteurs comme Elroy, alors même s'il est américain, puis avec Jonquet ou toi, de manière plus récente. Moi ça me paraît... Ça me paraît logique.
Oui, c'est à contrario en fait du travail. Par exemple, je pense à Flock, qui a été très marqué par le roman anglais, le roman noir anglais,
qui a
des ambiances extrêmement
qui vont très bien avec son dessin.
Oui, de Grande-Bretagne, quoi. C'est ouais. On pense à tous ces livres. Bon, je vais pas citer les livres en question, mais enfin des intrigues très très anglo-saxonnes, quoi, effectivement.
Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'il faut avoir le dessin et puis l'envie de faire ça. J'avoue que c'est pas la mienne et je serais gêné, enfin très empesé par cette
Oui, puis tu n'as pas le trait non plus qui conviendrait.
J'ai pas un trait qui convient à ça, moi j'ai un trait qui est ce qu'il est.
D'accord. Alors justement, à propos du trait, là dont tu nous disais que tu avais été influencé par Moebius et gens comme ça au début où tu t'es lancé à faire de la BD, mais dans le domaine de la BD noire, est-ce qu'il y a des noms, je pense à des gens comme Munoz, Tardi, bon, qui sont plus âgés que toi, est-ce que ces gens-là t'ont influencé ou est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent à l'esprit?
Ouais, j'ai trois grandes périodes d'influence, je crois, trois grandes périodes liées à ma vie aussi, quoi. Quand j'étais gamin, moi, je suis tombé devant Gaston Lagaffe et Franquin, pour moi, ça a été une vraie baffe, et que je continue à revisiter assez souvent, parce que c'est aussi un type qui est en rapport avec son actualité, avec son quotidien. Et je dirais que ce que je fais, moi, dans ma veine comique, je sais que ça vient de loin en loin de là. La deuxième période, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, avec une fascination pour le fantastique, tel qu'il y a, ou la SF. Telle qu'elle a été travaillée par les gens que j'évoquais, donc Moebius, Druyer, bon. Et puis, troisième phase, celle qui m'a fait passer à l'âge adulte, c'est celle qui m'a porté précisément vers les gens que tu viens d'évoquer. Évidemment Munoz, évidemment Tardi, évidemment aussi, alors pour le coup, de manière plus nostalgique, vers la bande dessinée américaine des années 30. Quand on regarde Foster, Raymond...
Alex Raymond, oui, mais je pense à lui.
Des gens comme ça, c'est sûr que Dick Tracy, c'est aussi un rapport justement au noir et à un dessin qui se fait à l'économie, mais avec une grande efficacité, une grande tension. Moi, ça m'a beaucoup impressionné. Puis, ça ne s'arrête pas là, les influenceurs continuent. Mais c'est-à-dire que quand j'ai rencontré ces gens-là, j'ai eu l'impression véritablement de me trouver face à une bande dessinée qui était destinée à des adultes.
D'accord. Et je t'ai posé la question, en fait, c'est par rapport à la couleur, parce que je t'ai cité deux noms, Munoz et Tardi, qui effectivement sont des noms hein, dans la bande dessinée noire, mais noir dans les deux sens du terme, puisqu'en fait, ils travaillent essentiellement, sauf Munoz, effectivement, pour les dessins plus personnels, travaillent en noir et blanc. Or, toi, la couleur est quand même permanente dans ce que tu fais. Mmh. Alors, comment tu expliques ça?
J'ai commencé en noir et blanc chez Futuropolis, hein, j'ai fait quatre bouquins en noir et blanc. Justement, dans ma période d'extraordinaire fascination pour Munoz, pour Baudouin, pour Tardi, enfin, des gens comme ça. Donc, j'ai essayé de m'y coloter à la fois pour des raisons économiques, parce que Futuro faisait des bouquins en noir et blanc, et puis parce que pour moi, c'était un petit peu l'aristocratie de la bande dessinée, quoi. Arriver à faire une bande dessinée en noir et blanc qui a un pouvoir de conviction, de suggestion, enfin de... aussi dans ce que celui de Munoz ou Tardi, c'est la grande classe, quoi. C'est le summum. Sauf que c'est super difficile. Et je me suis aperçu que j'avais sans doute pas les épaules pour ça. Et que aussi, moi, mon dessin naturel, c'est quand même un dessin qui baigne dans la couleur, quoi. Et finalement, le boulot que j'ai tenté ensuite, bah justement avec mes premières collaborations avec Jonquet, me permettait de réinstaurer, de réintégrer de la couleur dans ces histoires noires, et essayer d'en faire justement, de faire de cette couleur-là, un peu à l'instar de ce que faisaient les Munoz et les dessinateurs de Dick Tracy par rapport au noir et blanc, comment dire, de donner à cette couleur-là un rôle de premier plan par rapport à l'ambiance et puis par rapport même à la nature de l'histoire qui est racontée. Et donc de la rendre aussi expressive, aussi dense, aussi tragique, aussi presque aussi noire, hein, je dirais, qu'on peut le faire avec le blanc et le noir, quoi.
On a l'impression, en te lisant depuis des années, qu'au départ de ta collaboration avec Jonquet, par exemple, tu avais des couleurs très, très pétardes, très franches. On dira, j'allais dire peu subtil, c'est méchant, mais beaucoup plus hargneuses, on dira. Voilà, des couleurs hargneuses. Et dans les dernières images qu'on a pu voir de toi, les dernières BD, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus sourd, plus en douceur. Comment t'expliques ça?
Comment j'explique ça? C'est vrai que ça a commencé avec Thierry pour la vigie, et puis surtout pour la vie de ma mère, par quelque chose, l'adaptation d'un roman qui était quand même assez, assez violent, où c'est précisément posé la question de la transposition d'un texte qui n'est pas le plus dur de Thierry, hein, qui n'est pas le plus noir, qui n'est pas le plus agressif, qui est peut-être même un des plus accessibles à lire, je dirais, mais qui, transposé en bande dessinée, pose la question de l'image, et c'est assez marrant d'ailleurs, parce que Thierry m'a pondu le scénario presque jovial, quoi, et moi, voyant arriver le scénario, je voyais arriver les difficultés, c'est-à-dire, il y a une scène de viol d'une bourgeoise, des scènes de tournante dans des caves. Ça peut paraître assez burlesque à écrire, c'est quand même assez difficile à dessiner, et ça porte une charge de violence, évidemment, qui surenchérit par rapport au texte. Et donc, moi j'ai eu le sentiment que mon travail de couleur devait un petit peu porter ça, une couleur qui était en fait plaquée sur un dessin qui est plutôt un dessin d'origine réaliste, mais une couleur qui, elle, ne l'est pas. C'est-à-dire une couleur qui, comme tu le dis, est hargneuse, assez violente, avec des primaires, avec des complémentaires. Donc une couleur qui vous saute à la gueule, mais qui est là justement pour, alors peut-être pour guider le lecteur, mais pour le guider vers une perception de la violence du récit. Mais c'est vrai que, comment dire, moi j'essaie de poser mon dessin et ma couleur à chaque fois par rapport au récit qui m'est proposé.
D'accord.
Et de réagir par rapport à ça, et de faire aussi de chaque expérience la possibilité d'explorer autre chose. Et c'est vrai que le boulot qu'on a pu faire ensemble sur le Rouge et ma couleur, et plus encore sur celui qu'on est en train de finir, la guitare de Bo Diddley, me permettent d'aborder des ambiances qui sont différentes aussi, quoi. Et donc j'essaie que ma couleur réagisse à ça, quoi. Et quelle est la subtilité ou l'agressivité que nécessite le
et tu,
récit.
Concernant le trait, tu travailles plus au crayon qu'à l'encre noire.
Là aussi, j'ai commencé avec Thierry, avec un dessin qui était agressif sur les deux plans, donc couleur pas réaliste, primaire, et puis un dessin à la plume au pinceau avec un noir assez, assez déterminé et assez violent aussi, avec l'envie de revenir à une plus grande souplesse et puis un plus grand naturel aussi, et qui fait que le dernier bouquin fait ensemble, c'est un petit peu ce qu'il y a de plus difficile à faire en couleur, c'est-à-dire c'est de la couleur directe, mais aussi de plus savoureux, puisque c'est de la couleur qui est posée sur un dessin à la mine de plomb.
Mais c'est plus difficile peut-être, non?
C'est plus difficile parce que si on se rate, il faut refaire. Donc là, j'ai dû refaire certaines choses qui étaient foirées, mais ça permet justement, par rapport à des ambiances un petit peu plus douces, où on est peut-être en connivence plus sensible avec le personnage, avec les personnages, d'avoir une rondeur, d'avoir une, comme tu disais, une douceur et une subtilité que permet pas ni la plume, ni des couleurs plus violentes. Et pour moi, c'est la possibilité aussi, évidemment, de progresser.
Quand tu travailles sur des lieux connus, ou disons des lieux existants, parce qu'on sait que tu as beaucoup travaillé sur Belleville et Barbès, à Paris, donc, tu fais quoi? Tu fais des photos, tu fais des repérages? Raconte-nous un peu ça.
Je tousse un peu et que ça sera éliminé. Quand j'ai besoin de repérages pour les bouquins, je procède un peu des deux manières, c'est-à-dire que je fais pas mal de photos, dans la mesure du possible aussi, j'essaie de faire du dessin. J'ai un rapport à la photo qui a pas mal évolué. Enfin, au début, pour un dessinateur, le rapport à la photo, c'est terrible, parce que arriver à prendre de la distance par rapport à l'origine photographique, c'est difficile, on a toujours un rapport un peu servile, et on a toujours tendance à venir plaquer des décors bien chiadés, bien posés, qui finalement sont pas toujours en coïncidence avec le dessin des personnages.
Oui.
Au début, j'ai eu du mal avec ça. C'est la raison pour laquelle, par exemple, le repérage que j'ai dû faire sur la vie de ma mère a été beaucoup dessiné, pour arriver à prendre de la distance. Depuis, enfin, je pense que j'ai fait des progrès par rapport à ça, je fonctionne un petit peu mieux par rapport à la photo, j'arrive à en garder ce qui me paraît essentiel pour la structure générale de l'ambiance et à rejeter tout ce qui est anecdotique et sous la coupe de quoi je me trouvais auparavant, quoi. Mais j'essaie d'alterner les deux. Ceci dit, dessiner dans Paris, c'est pas toujours très facile. À plus forte raison quand on fait ça à Barbès et à Pigalle. Mais ceci dit, faire des photos à Barbès
C'est encore
et à
pire.
Pigalle, c'est encore plus difficile.
Et justement, tu parles de Paris, là, et en fait, on s'aperçoit que tu as beaucoup et tu dessines toujours sur Paris, certains quartiers. Tu es très lié à la ville, comment, à l'urbanité, etc. T'es pas tenté de t'échapper? Et si oui, si t'es tenté, t'aimerais aller où? En France, à l'étranger? Raconte-nous un peu ça.
Bon alors évidemment, moi si je travaille sur Paris, c'est que je suis entré en connivence avec des auteurs qui étaient aussi attachés à ça, ne serait-ce que parce qu'ils y habitent. Et puis à mon avis, on ne parle mieux, on ne montre mieux que ce qu'on connaît bien tout de
Et tu
même.
aimes ça peut-être aussi.
Ah moi j'adore ça. Moi je dessinais encore une fois ce qui est en bas de chez moi ou dans les parages. D'abord je trouve ça très très photogénique. Mon quartier où moi j'habite à Barbès ou Belleville, moi je trouve ça magnifique. Et précisément par rapport aux histoires qu'on a relatées, ben, c'est une espèce de décor comment dire, qui est une ressource infinie, quoi. Mais évidemment, moi j'ai aussi peut-être l'impression de toucher les limites de ça. J'ai fait pas mal de bouquins autour de ces zones-là. Oui, je suis tenté de m'échapper un petit peu. Alors de m'échapper soit dans des territoires qu'on ne peut pas dessiner de manière urbaine, donc pourquoi pas partir à la campagne, mais peut-être aussi retrouver d'autres sources urbaines qui vont me faire dessiner d'autres univers. Enfin bon, les États-Unis, c'est un peu loin, mais pourquoi pas se balader un petit peu en Europe?
Et tu connais juste, enfin, est-ce que à titre personnel, quand tu as envie de partir en vacances, de te balader, tu vas dans des grandes capitales européennes ou aux États-Unis, t'es voyageur, toi?
J'aimerais bien l'être plus. C'est-à-dire que ouais, mon boulot me permet pas d'être un globe-trotteur, mais ouais, enfin, ce qui me fascine plus, c'est effectivement c'est les grandes villes. Donc New York, c'est une ville que j'adore. Et en Europe, oui, il y a des villes auxquelles je suis particulièrement attaché parce que ce sont comment dire, ce sont des sources culturelles et puis aussi des sources musicales. La musique est pas pour rien dans mon boulot, d'où mon intérêt pour New York, d'où mon intérêt pour Londres. Alors Bruxelles, c'est pas une ville forcément très très comment dire, historiquement liée à l'apparition de musique particulière, encore que elle est très très active. C'est une ville que j'aime beaucoup, moi aussi.
On est tous les deux liés à quelqu'un qu'on aime bien, qui s'appelle Loustal, qui est un dessinateur comme toi, et qui voyage beaucoup. Et lui rapporte systématiquement de ses voyages, mais il reste assez longtemps dans les endroits où il va, c'est normal, des carnets de croquis, des carnets de voyage, qu'il édite après, qu'il pourrait très bien ne pas éditer, mais il les édite. Et je voulais savoir si toi, quand tu te balades comme ça aux quatre coins du monde, tu fais ça, tu fais des carnets de croquis ou au contraire c'est autre chose, t'es dans un autre élément.
En général, j'ai plutôt envie d'être ailleurs et de dissocier le boulot de cette immersion-là, quoi. Donc je préfère profiter des lieux. Parce que dessiner, quand même, c'est. Alors on prend un point de vue, on s'arrête,
Oui.
et on s'arrête aussi dans son voyage, hein, finalement.
Et on n'arrête plus de travailler, quoi. C'est toujours un peu la même
Ouais,
chose, quoi.
je suis pas comme ça, moi, non.
Ouais.
Vacances.
Au cours de tout ton parcours, là, hein, où effectivement tu es pas mal ancré dans le noir en ce qui concerne la fiction, fiction pure et dure, tu as commencé à, ou plutôt tu as recommencé, parce que je me souviens que tu avais fait un grand album en noir et blanc autobiographique
La
chez
jungle, ouais.
Futuro, non?
Non, c'était chez les rêveurs, le petit éditeur, toujours.
D'accord. Oui, c'est la taille qui me faisait penser à la collection
Ça pourrait, on
30-40.
aurait pu penser à un 30-40.
Et donc tu as donc recommencé à travailler sur toi-même, enfin en proposant ce qu'on pourrait appeler des autofictions, quoi. Hein. Tu es au centre de tout ça, mais c'est pas complètement de la réalité à 100%. Et ces livres, tu les édites par fraction, si je puis dire, dans Flûte glaciale, dans la revue. Ils sont ensuite regroupés dans des albums que je citais tout à l'heure, qui s'appellent Petite Nature. Donc là, tu changes de registre, tu fais réapparaître les gros nez, etc. Pourquoi tu fais ça?
Je fais ça parce que, d'abord parce que j'ai des envies narratives différentes, donc et en termes de ton, évidemment, c'est pas la même chose que de se moquer de soi et puis de devoir se balader dans des quartiers difficiles du côté de la Goutte d'Or. Et tout simplement parce que moi, j'ai ce côté noir, tendu, premier degré, que me permet de travailler le noir, et puis j'ai cette distance au second degré de moquerie sur moi-même que j'ai envie d'explorer aussi.
Oui, j'entends bien, mais oui, c'est ça. En fait, parce que tu dessines beaucoup autour du polar, du noir, mais tu pourrais très bien aussi faire des bandes dessinées avec des histoires humoristiques racontant la vie d'un groupe de brebis dans les alpages.
Alors,
Or, tu n'as
brebis
pas choisi
alpages,
ça,
non.
tu as choisi de te mettre en scène, de faire un travail donc autobiographique. En même temps, c'est un peu de l'autofiction. C'est quand même un vrai désir. Tu t'avais envie de montrer que tu étais quelqu'un d'autre, que tu n'étais pas. Enfin, c'est ma question.
Alors, comment dire, j'ai dit tout à l'heure qu'on parlait bien que de ce qu'on connaissait, et moi quand même c'est ce qui me guide dans ce que je fais. Je me vois mal en train de, je pourrais, hein, mais je me vois mal en train de dessiner justement des histoires de brebis dans les alpages ou de western ou de science-fiction, c'est-à-dire de choses. J'ai jamais fait de cheval, les brebis je m'en fous. Voilà, le
Non,
14
mais
de
c'est une bonne
Renaissance, ça
réponse,
ne m'intéresse pas.
oui.
Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est ce qui se passe autour de moi, parce que c'est la seule chose sur laquelle je puisse avoir un discours qui me paraisse, comment dire, cohérent et légitime. Voilà. Et ma recherche de légitimité, pour moi, elle est importante. Ce dont je vous parle et ce que je vous montre, je peux le faire parce que je le connais un peu. Voilà, donc Barbès Pigalle, pour moi, dans le noir, c'est important parce que je peux en parler un petit peu, j'y habite. Et ma pomme, avec mes angoisses sur des douleurs testiculaires ou quoi d'autre, sur ma capacité à séduire qui ne me paraît pas être au niveau, je peux en parler parce que c'est ce que je vis.
Mais comment tu travailles avec... Parce qu'en fait, c'est pas toi qui fais tous les scénarios, tu travailles également avec des scénaristes.
Alors j'ai...
Or, c'est quand même toi, comme tu viens de l'expliquer, là, qui est au centre de ces histoires. Tu les briefes avant, comment ça se passe?
Ben en fait, tu as parlé de la Gingras, qui était effectivement un petit peu la jeunesse de Blueberry, puisque ça racontait l'adolescence du personnage.
Ah,
Et
c'est toi, Blueberry, finalement.
Blueberry, c'est
Mais
moi.
je m'en doutais
Eh
un petit
ouais,
peu.
ce nez cassé, ce visage buriné, mais oui, c'est moi, Blueberry. Et donc avant la Gingras, j'avais pondu une histoire qui s'appelait Parano, où j'étais déjà ça, enfin, c'était mon personnage, donc 10 ans avant. Et quelque part, là, dans la Gingras, et puis dans le premier Petite Nature, quelque part, j'ai eu l'impression de lancer la Bible du personnage, c'est-à-dire de lancer sa psychologie, ses réactions, ses sensations, ses peurs par rapport à l'univers qui l'entoure, ses frustrations, enfin sa pleutrerie, de caractériser un personnage. Et l'idée qui m'est venue, c'était de proposer en quelque sorte cette marionnette, cette espèce de Gaston latex, je reviens à Franquin, et de le proposer à des personnages qui en auraient compris les rouages et qui pourraient lui faire vivre des aventures palpitantes auxquelles moi j'aurais absolument pas pensé, quoi. Donc c'était entrer effectivement beaucoup plus dans l'autofiction que dans l'autobiographie. Moi l'autobiographie m'intéresse pas à proprement parler parce que j'ai pas non plus grand-chose
Oui, mais
à raconter de très édifiant
on
sur
croit,
le...
oui, je suis d'accord avec toi, mais en fait, on croit toujours qu'on n'a rien à raconter, puis on peut faire quand même de l'autobiographie ou de l'autofiction avec n'importe quoi. Il suffit de se casser la gueule en allant chercher le pain chez le boulanger. Avec un petit talent, on arrive à faire 12 pages
L'idée, c'est qu'on
sans
arrive à faire résonner
tergiverser.
ça dans le lecteur et que
Oui.
effectivement, il se reconnaît, il arrive à se moquer de l'autre et à se... Et avec la distance, peut-être à s'interroger un tout petit
Donc
peu sur
alors
lui.
tu es en train de nous dire que tu as fait une sorte de Bible qui est allée là sur grosso modo le premier Petite Nature et l'ancien
Ça fait
que tu
4-5
citais.
bouquins, ouais, c'est ça,
Oui,
oui.
enfin là on a dépassé la Bible, là, on est carrément dans la production.
Oui,
Et
oui.
c'est les premiers livres qui ont servi en quelque sorte de Bible à tes scénaristes.
Oui,
Dis
amusez-vous
dis
avec
les
ça,
noms,
dis.
je me souviens plus des noms des scénaristes.
Bah, Zep m'a fait deux histoires. Bon, qui était peut-être un peu trop lié à sa pratique à lui, qui est un humour particulier qui est habitué à mener avec avec son personnage si connu, mais enfin, il s'est bien saisi du personnage. Et moi, j'ai eu grand plaisir à bosser avec Lain Dingre. Yann Lain Dingre, qui est un des nouveaux piliers de Fuite Glaciale, avec un dessin sommaire, mais avec des histoires d'une noirceur comique que moi, je trouve absolument épatante. Et puis, je bosse avec une copine avec qui je travaille par ailleurs dans mon autre vie professionnelle qui est pédagogique, qui me connaît bien et qui, elle, justement, peut très très bien se servir
Et ça
du
ne lui pose
personnage.
pas de problème à elle qui est une femme de rentrer dans la tête
Ah ben moi,
d'un
ça
homme avec
m'intéressait
ses
vachement
problèmes?
justement de savoir ce qu'une femme pouvait penser de. Ouais, pouvait penser d'un sale type comme moi. Et le fait est que les scénarios qu'elle a pondus font. Enfin, qui sont essentiellement ceux du troisième tome, ont donné une coloration assez spécifique à ce bouquin-là que n'ont pas les autres, qui sont un petit peu plus éclatés, quoi, qui se permettaient de parler d'un petit peu tout et n'importe quoi. Et le fait est qu'un petit peu naturellement, le troisième tome, il est porté sur les relations entre le personnage et les femmes.
Donc ce troisième tome, excuse-moi, je parle trop vite, qu'on a cité tout à l'heure, qui va
Prêt à tout.
paraître, voilà, c'est Prêt à tout. Donc c'est elle, qui s'appelle comment,
Elle
dis-moi le nom?
s'appelle Anne Barrois.
Anne Barrois. C'est donc Anne Barrois qui a fait la plupart des
Tout
scénarios.
à fait.
Et donc c'est toi et les femmes, en quelque sorte.
C'est moi et les. Oui, moi et les
Et
femmes,
alors
moi et.
justement, parce qu'en
Ah.
fait, on a des auditeurs que ça intéresse énormément. Je vois notre ami Francis Misio qui ricane sur sa chaise dans le studio. Et comment ça se passe alors avec les femmes? Elles sont faciles ou
C'est dur,
elles
c'est
veulent
dur.
ton corps? Enfin, comment?
Ben, soit elles veulent mon corps et mon esprit les intéresse
Et
peu.
tu es partant?
Et je suis assez partant, mais j'aimerais bien être gratifié pour mes sources intellectuelles aussi. Soit
Ah
c'est le
oui, tu veux
contraire.
le beurre, l'argent du beurre et la
Et le
crémière
cul de la
peut-être aussi. Mais
crémière,
oui,
si c'est
mais oui,
possible.
mais c'est un. Bon, on veut tout ça en fait. Hein,
C'est difficile,
oui. Mais c'est un
c'est
plan de
difficile.
carrière, ça.
C'est du long terme, j'y travaille, je pose des
Et
jalons.
alors cette Madame Barrois, elle pense que tu vas t'en sortir ou au contraire, tu as vraiment des gros soucis?
Bah, c'est-à-dire que jusqu'à présent, elle m'a situé dans des. M'a pensé dans des situations
Délicate.
plutôt humiliantes, délicates, qui sont peut-être un parcours du combattant qui va servir à m'aguerrir pour affronter le pire. Enfin, en tout cas, ça y
Est-ce que
ressemble
tu as
fort.
attaqué le sujet des préservatifs en laine? Tu sais, comme nos parents
La laine qui bouloche,
avaient dans
ouais.
les années 40 en laine bleu marine.
Je pense que je vais lui suggérer, oui. Ça
Oui, je
ne porte
pense
pas
que
travail
ça. Non,
là-dessus.
on peut raconter des choses, hein.
Oui. Mais le rapport que j'avais, elle, était justement de. Que si des scènes de nudité étaient à proposer, c'était moi qui les scénariserais. Donc
Ah
voilà.
oui.
Restons dans une certaine
Oui.
distance professionnelle. Enfin, ceci dit, vous le lirez, ça reste atroce
Et
pour
ça
autant.
paraît quand ça?
Ça paraît en juin.
Prêt à tout paraît en juin, donc
Début juin, oui.
chez
Chez
Fuite
Fuite Glaciale.
Glaciale. Hein.
Absolument.
Bon, et alors là, comment tu vois maintenant, toi, ton projet de toi, là, t'as l'âge de te projeter. Moi, je fais attention maintenant. Projette-toi dans 5 années, mettons dans 5 ans. Tu te vois continuer comme ça avec une. C'est moi qui te lance sur le truc, mais tu vas pouvoir reprendre tout ça de volée. Tu te vois continuer comme ça avec bon, un job qui est intéressant d'ailleurs, puisque tu es prof d'art graphique, rappelons-le, aux arts appliqués Olivier de Serres. Ensuite, continuer de la BD complètement de la fiction, donc noire.
L'idée, c'est que j'ai besoin d'être prof parce que j'adore ça. Hein. Et puis de l'autre côté, cette ambivalence-là, d'abord, me convient entre une veine, disons, auto-fictionnelle plutôt cocasse, et puis de l'autre côté, travailler au fond des choses et aller au fond du noir. Et surtout, j'ai l'impression Bon, j'ai déjà une certaine carrière, mais j'ai l'impression d'avoir effleuré ça, enfin, d'être au début de mes découvertes et vraiment de pas avoir tout trouvé. Donc j'ai encore, enfin, il y a un désir encore très très fort, quoi, de continuer à creuser ces deux terrains-là. C'est pas parce qu'on a pondu 5-6 bouquins de chaque côté qu'on a fait le tour du pâté de maison, à mon avis.
Je te posais la question en fait parce que on a des copains communs qui viennent, qui sont venus, pardon, à la bande dessinée, mais qui au départ sont plutôt des dessinateurs, des illustrateurs, donc des gens qui sont des producteurs d'images fixes, qui sont aussi souvent d'ailleurs des peintres, hein, je pense par exemple à Lorenzo Mattotti, et qui sont venus à la bande dessinée. Enfin, dans le cas de Lorenzo, c'est faux, parce qu'il a commencé en Italie par de la bande dessinée. Enfin, bref, toi, tu n'as jamais été tenté de dire, bon, je fais de la BD, mais j'aimerais bien aller voir ailleurs, peut-être essayer de faire de l'illustration, ou de la peinture, ou j'en sais rien, peut-être du décor théâtre, tu vois, ce genre de truc. Changer de genre, un peu.
Non, pas du tout, en fait. Non. Enfin, cette tentation-là, pour moi, ça a été éventuellement une tentation de formation. C'est-à-dire quand j'étais au début et que à 18-20 ans, ben, on touche un peu à tout pour savoir un peu où on veut aller. Évidemment, j'ai fait un peu d'illustration, j'ai fait du dessin, j'ai fait un peu ce qu'on me demandait de faire quand j'ai appris à dessiner. Mais assez tôt, je me suis quand même aperçu que mon dessin me... Comment dire ? Mon dessin était fait pour être un dessin servant à raconter des choses.
Narratif.
Voilà, moi j'ai... Mon dessin sert à raconter de la bande dessinée, alors dans des cases ou pas de cases, hein, peu importe, mais je me sens pas illustrateur ou très difficilement. C'est un métier qui me paraît être très très singulièrement différent de celui de dessinateur de bande dessinée.
Oui, mais tu vois, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'en fait, on a tous lu le livre de cette formidable anglaise, Posy Simmonds,
oui.
Qui a édité chez Fomental, qui l'a édité ce livre-là,
oui.
Non
hein,
qui a réussi... qui n'est pas particulièrement habile hein, comme dessinatrice,
virtuose,
mais qui a réussi à mêler en fait une narration avec du texte écrit et des images qui sont à moitié des images de BD ou des images fixes, etc. Donc en fait, on peut très bien évoluer vers de l'image fixe sans non plus avoir le Louvre en ligne de mire, en sortant peut-être des cases, c'est ça que je veux dire, tu vois. Il y a aussi... Attends, je finis ma phrase, excuse-moi. Il y a aussi toute cette génération qui s'est lancée dans le roman graphique, et dont certains ont poussé les choses loin. Je pense à Baudouin avec Vargas, qui a fait un vrai roman graphique, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pratiquement pas de cases, hein, les images s'enroulent autour des textes et vice-versa. Voilà, je pensais plutôt à des trucs comme ça. Plus.
Ah, moi, ça me tente. Oui, ça me tente. Oui. Pourquoi ? Parce que le dessin reste imbriqué avec du texte.
Oui.
Et qu'on est toujours dans une configuration narrative.
Narrative de livre, etc.
On va avoir des... Pardon. Une configuration narrative où on va avoir des pages, un bouquin, quoi.
Bon.
Des pages qui se feuillettent, et puis on passe d'une étape à l'autre et on raconte une histoire. Donc moi, je suis tout à fait ouvert à ça, bien sûr. Mmh. Mais en revanche, moi, j'ai des très très fortes réticences sur le... Enfin, je ne peux pas être peintre, ce serait une pantalonnade. Et d'ailleurs, moi, mon point de vue par rapport à ça, qui est j'ai une assez nette opposition avec un paquet d'auteurs de ma génération ou d'une génération
oui.
La génération qui suit ou celle qui me précède un tout petit peu. D'abord, moi, je me sens pas, parce que je sais dessiner, être à la fois auteur de bande dessinée, illustrateur, peintre, créateur de décors ou cinéaste. Hein. Moi, je pense qu'on a quand même un talent plus spécifique à creuser. Et je pense que bien souvent, hélas, mes camarades qui s'exercent dans la peinture... Et quoi exercer, quoi être, quand ils font de la peinture, d'être des peintres, se trompent, mais alors, dramatiquement, et ne font jamais que de la grande illustration, quoi. Ce qui est déjà pas mal, mais le tout serait d'accepter de l'assumer, quoi, et de ne pas mélanger les torchons et les serviettes.
Donc tu te revendiques vraiment comme un dessinateur narratif, lié à la bande dessinée, qu'elle ait des cases ou pas de cases, mais enfin bref,
fait.
La narration.
Moi j'ai une grande fierté par rapport à ça, je sais que bien souvent chez mes camarades, il y a au contraire une espèce de petite frustration ou de petit complexe du dessinateur de bande dessinée, où le dessin est un dessin utile. Par rapport aux disciplines plus prestigieuses que sont la peinture ou le dessin en tant que tel, où là, on peut imaginer que le dessin est noble et n'est pas au service de...
Bon, Jean-Christophe, on a fait le tour. Je vais maintenant te poser quand même les deux questions les plus importantes de cette interview pour les habits noirs. D'abord, qu'as-tu fait exactement le jour de la mort de Lux Intérieur ?
J'ai appris sa mort à 7 heures du matin. Un copain m'a appelé à 7h du mat, il venait d'apprendre ça sur le site de Rolling Stone, je crois. J'ai été pris par une sidération totale.
Et tu as pleuré?
Oui. Je dois dire.
Est-ce que dans ces cas-là, tu t'agenouilles près de la fenêtre en invoquant le Seigneur?
Non, non, je vais rejoindre le petit hôtel que j'ai consacré à la mythologie grampienne,
voilà.
Au fin fond de
l'appartement. Avec les lumières rouges qui s'allument.
J'allume les bougies,
bon.
Voilà, je déploie le tapis en faux au tigre, et j'ai versé ma larme sur
Est-ce que tu t'es repassé un vieux disque des Cramps alors?
Oui, bon. J'ai ressorti Songs de Lord Totus, et je me suis rappelé pourquoi et comment ça a bouleversé ma vie.
Parfait. Alors justement, pour en finir quand même, et sur une note plutôt gaie, comme ça, un peu au débotté, sans trop réfléchir, donne-nous ton top 5 et non 10, donc 5, les 5 meilleurs disques que tu nous conseilles pour cette année 2009. Bon, fin 2008, on accepte aussi les 5 meilleurs disques de rock, bien entendu.
Des disques récents?
Oui, des disques récents, oui.
Wow,
Qu'est-ce que tu écoutes, toi, que tu aimes bien?
Bah, c'est-à-dire que les derniers temps, j'avoue que j'ai écouté beaucoup de choses des années 60.
Eh bah, ben, vas-y.
Ouais, c'est souvent des compilations. Mais alors j'adore un truc en ce moment, mais mes gosses découvrent enfin écoutent beaucoup de rock, quoi, et ils tombent sur les disques qui moi aussi m'ont fasciné, quoi. Alors, en ce moment, tourne en boucle, ça commence à me lasser un peu, mais à la fois c'est difficile. Tourne en boucle le premier Who. D'accord, et Generation, tout ça, bon. Donc, c'est fantastique. Donc, je baigne là-dedans. Out in the street. Mais quand même de donner des trucs plus récents.
Et tu as aimé The Gossip?
The Gossip, j'adore, oui. J'adore ça. Je sais pas ce que va être leur prochain disque, mais cette espèce de mélange punk, disco, soul. Absolument remarquable.
Et les deux nouvelles têtes folles du rock, Amy Winehouse et Pete Doherty.
Amy Winehouse, son deuxième disque, je le trouve parfait. Et le fait est qu'en ce moment, j'écoute surtout de la soul. Mais elle arrive à restituer en 2008, ce qui était si savoureux en 60, fin de 60 à 67, quoi. J'ai fait ça brillamment. Alors à vrai dire, moi je préfère les sources. Donc je préfère aller directement vers Tamla, vers ce qui se faisait du côté d'Amérique du Nord. Mais et puis Pete Doherty, moi j'ai un peu de mal, quoi. Enfin,
tout le monde me dit que le dernier album solo, là, ou son premier, j'en sais rien, sous son nom,
le premier solo,
il est excellent.
Des beaux morceaux, ouais, oui, il y a des très beaux morceaux, mais ouais, Baby Shambles et tout ça, j'ai un peu de mal, quoi. La gratouille avec des morceaux qui sont jamais menés à leur terme, ça m'emmerde un peu. J'ai eu plus de plaisir à écouter certains groupes de nouveaux garage, ouais, comme les Hives, où là on retombe sur des morceaux qui sont très très courts, qui sont super maîtrisés, des toniques, dynamiques, et là on a envie de sauter en l'air, quoi. Donc là je suis totalement fan, quoi. Mais ce qui est génial, c'est que ça n'arrête pas, quoi. Donc on a beau clamer la mort du rock, il revient toujours, quoi. Donc bravo.
Bon, bah vous avez compris que Jean-Christophe Chosy était un grand fan de rock et que toute discussion avec lui se termine autour des galettes qui ne sont plus de vinyle, bien sûr. On te remercie Jean-Christophe, je te dis au revoir. Bah oui. Et puis merci à tous d'avoir écouté Jean-Christophe Chosy, dont rappelons-le, le prochain livre s'intitule Prêt à tout. C'est édité chez Fluide Glacial et ça paraît en juin. Donc on vous le conseille vivement.
Et peut-être qu'on peut conseiller aussi notre ouvrage commun à sortir.
Oui, mais on en reparlera à la rentrée, on en est loin là, ce sera en septembre. Voilà, à bientôt les habits noirs, ciao.